à fait. Alors, je vais être très bref en introduction. Je vais essayer d'ailleurs d'être globalement assez bref.
Bon, je fais pas sur sa
non, ben non, justement, je vais... Alors, c'est d'ailleurs, cette intervention, c'est une intervention de commande, hein, parce que, à la dernière, mais je précise, vous allez voir pourquoi. C'est une intervention de commande, je vais la réutiliser pour se coller par ailleurs. Mais, enfin, sous un bien un peu différent. Mais je vais vous dire pourquoi. Non, parce que c'était à la dernière séance. Moi, je me suis intéressé au CAIR depuis quelques mois maintenant. Je trouve que c'est une pensée excessivement pertinente et qui est bien loin des caricatures qu'on a pu en faire récemment à propos d'une nucherie ou de choses comme ça. Beaucoup plus solide et sérieux que ça. Et il y a quelque chose de très intéressant sur la question, bien sûr, du soi et du rapport à soi-même et de l'articulation du rapport à soi-même aux autres. Et en plus, c'est un changement de perspective radical sur ces questions-là. Avec au cœur de justement sur mon perspective la question de l'attention. Maintenant, c'est pour ça que j'avais pris ces précautions auparavant, maintenant il n'y a pas de thématisation explicite de la notion de technique, de soi, dans le CAIR. Déjà parce que la question technique, elle va justement être sur un versant, entre guillemets, traditionnellement réservé à la technique, c'est-à-dire question du travail lui-même et comment il s'effectue. D'autre part parce que le soi, c'est quand même encore une notion qui pourrait, sous certains aspects, suspecte pour le CAIR, et qui pourrait en tout cas être vue de façon très connotée, notion très présente, hein. Mais l'idée d'un soi, comme on parlait, qui serait un moi constitué, autoconstitué, solide, qui surplomberait, en tout cas il y a une critique très forte chez le CAIR, d'une certaine idée du soi. Donc la technique de soi qui viserait à une maîtrise de soi, par exemple, est quelque chose de complètement absent du CAIR. Voilà pour situer. Et par ailleurs, dans l'optique plus précisément d'Ars Industrialis, il y a des choses très très intéressantes dans le CAIR. En particulier dans ce qu'on a pu appeler la deuxième vague du CAIR. Alors tout ce que je vous disais sur l'attention, le changement du regard, ça c'est présent dès le début, et de voir en quoi ce changement de regard induit un changement de comportement qui rend le monde meilleur, au moins aussi bien si ce n'est meilleur qu'il n'est. D'une part, et d'autre part, en particulier chez Joan Tronto, sur laquelle j'insisterai dans un deuxième temps, il y a une très forte liaison, organique en tout cas, entre la notion de CAIR et ce que serait qu'une démocratie effective, et qui touche, à mon avis, au cœur des préoccupations d'Ars Industrialis, et entre autres les logiques de bottom-up, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, on verra peut-être pas trop l'aspect technique de soi, essayer d'être bref là-dessus. Je vais vous présenter l'origine du CAIR et comment ça, de quoi ça vient, comment ça sert, qu'est-ce que ça dit, etc. En essayant de justement être pas trop historique, pas trop technique et d'essayer de toucher quand même à l'aspect conceptuel. Et c'est pour ça que dans un deuxième temps, donc là ce sera plutôt Carol Gilligan, hein, le livre fondateur du CAIR, une voix différente. Et dans un deuxième temps, je m'intéresserai au problème que ça pose, hein, la conception de Gilligan, à la fois dans le cadre d'une politique féministe, à la fois dans le cadre d'une morale aussi, qui soit une morale digne de ce nom, effective, une éthique en tout cas. Les deux termes sont assez utilisés de façon équivalente chez les auteurs du CAIR. Et je m'intéresserai plus particulièrement à ça, à Joan Tronto, qui garde tout le côté conversion de l'attention, réorientation du regard, tout en évacuant, sans le rejeter bien sûr, mais en évacuant, en tout cas comme point de départ, si ce n'est historique, la question du moral des femmes, que Tronto critique fermement. Donc, tout d'abord, on va commencer par là, les origines du CAIR. Carol Gilligan, hein, vous trouvez tout ça dans ce livre qui s'appelle Une voix différente, qui est plutôt intéressant, je vous en écrit. Alors, c'est écrit au début des années 80. Ça lancera, c'est un très grand succès aux États-Unis. Puis international, sauf une fois n'est pas coutume en France. Et le livre a été retraduit récemment et a été redécouvert fortement ces derniers temps, puisque le CAIR est vraiment quelque chose qui est au cœur de l'actualité. Alors, qui est Gilligan ? Carol Gilligan, c'est une collaboratrice de Lawrence Kohlberg. Pour ceux qui sont au fond de la psychologie, ça devrait peut-être dire quelque chose. Lawrence Kohlberg, c'est la référence, on va dire, l'autorité en matière de psychologie du développement moral. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Kohlberg, en fait, développe une pensée qui montre, enfin, d'après lui, à mon avis excessivement critiquée, mais qui montre qu'il y a six stades dans le développement moral, répartis en trois niveaux. Donc il va interroger, il va interviewer des enfants. Alors il leur présente des problématiques morales, du genre, le plus célèbre, c'est le dilemme de Heinz. Hein, il explique aux enfants que Heinz a une femme qui est très malade, Heinz est très pauvre, le pharmacien a le médicament qui pourrait soigner la femme de Heinz, qu'est-ce que Heinz doit faire? Alors vous avez six stades qui se répartissent en trois niveaux. Premier stade, ce qu'on appelle la morale préconventionnelle, qui s'articule vraiment en fonction des notions de récompense et de peine. Si je vole le médicament, je me punis. Si je vole le médicament, ma femme va être gentille avec moi. C'est très bien expliqué chez Tronto, autour de la page 100. Deuxième stade, c'est la morale qualifiée conventionnelle, instrumentale, individualiste. Moi, je n'ai jamais très très bien compris ces histoires de stade, je les trouve assez artificielles. Donc là, ça va être une espèce de légalisme. On ne doit pas voler parce que sinon on va être puni. Là, c'est plus simplement au niveau individuel, mais c'est élaboré. C'est ce qui intéresse Colbert. Hein. C'est pas tant. C'est ce que j'ai trouvé très déstabilisant à la lecture du Comme Gilkin. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais ce qui intéresse Colbert, c'est pas ce qu'on va faire les gens. Ce qui l'intéresse, c'est la façon dont ils élaborent les raisons qui vont les faire agir ou non dans un sens ou dans un autre. Et donc, dernier stade, c'est la morale post-conventionnelle, où là. Le sujet arrive à s'abstraire des conditions de sa société donnée et arrive à être quelque chose dans une interrogation en termes d'universalité. Sa femme a une dignité, grosso modo, sixième stade, c'est la morale kantienne. Il faut traiter chacun, l'humanité de chacun dans sa personne comme la personne de tout autre, jamais en même temps comme un moyen, mais jamais simplement comme un moyen, toujours en même temps comme une fin. Et avoir conscience de ça. Et ce qui est très important pour Colbert, visiblement, c'est le passage à l'abstraction. C'est-à-dire le passage de ma femme à une personne qui mérite le respect. Et Gilligan s'occupe de tout ça et constate qu'aucune, ou très très peu de jeunes filles, accèdent au stade 5, qui est le stade de la moralité, on va dire, authentique et effective. Alors, pourquoi ? Il y a une discussion qui est assez intéressante, qui est assez serrée de Gilligan, qui montre pourquoi l'explication traditionnelle est d'un sexisme tout à fait banal, et elle consiste à dire que pourquoi les femmes n'accèdent pas au stade des plus élevés de la moralité, parce que tout simplement, elles n'en sont pas capables. Gilligan, c'est une femme, oui. Donc il va critiquer tout ça. Elles n'en sont pas capables, c'est-à-dire qu'il y a un développement psychologique féminin qui est tel que on n'accède pas au stade 4 de l'amour, au stade 5 ou 6, de toute façon le stade 6 il est très très compliqué, c'est le stade de la désobéissance civile que Colbert abandonnera quasiment à la fin en voyant la rareté de ces occurrences. Et donc l'interprétation additionnelle, c'est de dire les femmes n'ont pas une moralité aussi complète que celle des hommes. Pourquoi ? Parce que le développement masculin est fondé sur la séparation, et donc un processus de progrès vers l'autonomie, alors que ce qui caractérise le développement féminin, c'est l'attachement. Et donc, on reste dans le fusionnel, ce qui implique qu'on soit toujours dans un rapport immédiat avec les demandes d'autrui, ses sentiments, ses affects, etc., et que grosso modo, on n'arrive pas à décoller de l'environnement immédiat. Hein ? Autrement dit, Gilligan analyse tout ça, les hommes sont dans une autodéfinition par séparation, alors que les femmes sont dans une autodescription, on n'est pas dans quelque chose de conceptuel, ça peut être situé, par connexion. Par connexion. Hein, par les liens, par etc. Alors, comme le souligne justement Gilligan, ce modèle de développement masculin, je cite, remplit les conditions indispensables de réussite dans le monde des affaires. L'homme autonome, indépendant, qui sait justement abstraire ses jugements de la situation dans laquelle il vit, lui, c'est précisément, c'est la morale de celui qui signe un plan social, en fait. C'est pas des personnes précises situées à qui j'ai affaire, c'est des abstractions. Pour la bonne marche de l'entreprise, il faut que je signe, etc. Vous doutez bien qu'on ne serait pas là si Gilligan n'était pas parti d'une autre hypothèse. que celle d'un développement inférieur. L'autre hypothèse de Gilligan, c'est de dire que si les filles ont du mal à répondre, c'est peut-être parce que le problème est mal posé, ou en tout cas parce qu'il l'est en des termes qui ne leur sont pas compréhensibles et accessibles. Et alors on voit, il y a en particulier deux enfants de 10 ans, pour des enfants de 10 ans, un discours d'une élaboration quand même assez surprenante, mais on va voir d'ailleurs ce point-là juste après dans la critique qu'on peut lui formuler à l'égard de Gilligan. Le jeune garçon, Jake, là, pas de problème, il doit voler le médicament, les beaux principes universels. Et puis, Amy, on lui pose le dilemme de la petite Amy, on lui pose le dilemme de Heinz, et là, elle a l'air même stupide. Gilligan le dit, elle est complètement désemparée, elle répond pas, elle bafouille. Alors, comme on insiste, etc., elle se sent prise en faute. Et en fait, très souvent, Gilligan Romain dit, mais la question pour les filles ne se pose pas en ces termes. Pour les petites filles, elle se pose déjà en deçà. La remarque que font la plupart des petites filles, c'est de dire, mais si le pharmacien a un médicament, pourquoi il ne le donne pas? Et elle est bien en deçà de la question légaliste de savoir si on a le droit ou pas de le voler. Et donc, Gilligan en vient à dire que, à côté de ce qu'elle appelle l'éthique de la justice, donc l'éthique de principe et de droit qui s'applique universellement à des entités abstraites, on va dire, se trouve une autre éthique, qui est l'éthique du care. Alors, on ne traduit pas care. Très brièvement là-dessus, je ne vais pas insister, parce que c'est un terme éminemment polysémique, et chaque fois qu'on le traduit, alors, plein de traductions, il y a concernement, responsabilité, ça peut aller jusque-là. Souci, attention, sollicitude, soin. Et le problème, c'est que dès qu'on choisit un des termes, on se retrouve rabattu sur une seule des dimensions du care, alors que c'est une activité plus globale. Le care, donc, n'est pas une nouvelle perspective. Attention. Ce que fait Gilligan, c'est bien plutôt à ses yeux mettre en évidence une perspective trop souvent recouverte, trop souvent ignorée. On verra avec Tronto pourquoi. Chez Gilligan, l'explication n'est pas très claire. Alors, comment se définit le care? Le care se définit par un souci fondamental. Là, je cite la très bonne introduction de Sandra Logier et Patricia Pappelmann au livre de Gilligan. Se définit par un souci fondamental du bien-être d'autrui et centre le développement moral sur l'attention aux responsabilités et à la nature des rapports humains. Entendu d'une voix différente, la morale ne se fonde pas sur des principes universels, mais part d'expériences rattachées au quotidien et à des problèmes moraux de personnes réelles dans leur vie ordinaire. Donc, ce qui caractérise le care, là, d'une manière plus théorique et plus conceptuelle, là, je reprends les catégories de Tronto, puis en en rajoutant éventuellement. Premièrement, et on va voir un parallélisme à chaque fois, premièrement, c'est une éthique de la responsabilité. Une éthique de la responsabilité et une éthique relationnelle de la responsabilité au sein d'une relation. Ce n'est pas une responsabilité abstraite, et ça va s'opposer à une éthique du droit et de la règle. Deuxièmement, c'est une éthique de la concrétude. C'est une éthique de la concrétude, c'est-à-dire que ça a deux conséquences. Ce n'est pas une éthique abstraite, ça je crois que j'ai déjà abordé la question. C'est des sujets incarnés, particuliers, situés, qui ont affaire à d'autres sujets incarnés, particuliers, situés. Donc, conséquence de ça, ça n'est pas une éthique formaliste. Il n'y a pas de règle du care, c'est à chaque situation appelle sa réponse précise. C'est du coup, il y en a peut-être, une éthique particulariste, ou ce qu'on appelle en termes techniques, une éthique contextualiste. C'est-à-dire que ce que je vais faire dépend du contexte. On n'est plus dans une théorie morale qui, justement, cherche à rester dans un niveau de généralité le plus grand possible et qui, après, s'appliquera au nom de principe universel à des situations particulières. Là, c'est la situation qui va déterminer sa propre réponse. D'accord ? Donc, il faudrait ajouter... Donc, le contextualisme contre l'universalisme, contextualisme et particularisme, la narrativité, c'est une... Ce qui caractérise le care aussi, c'est que c'est une... Pour ça, parler de théorie éthique du care, c'est un peu compliqué, même s'il y en a une, mais c'est une éthique narrative. C'est-à-dire que comment on va s'y prendre contrairement au formalisme, on va dire, voilà, j'ai telle règle, puis tel cas particulier auquel je vais appliquer la règle. Là, c'est la méthode du CARE, c'est une méthode narrative. On raconte. On raconte ce qui se passe, et c'est en fonction de ce récit qu'on choisit d'agir ou pas. Enfin, qu'on adapte son action ou pas. Il y a une critique très forte, du coup, de la notion d'autonomie, telle qu'elle est pensée actuellement, puisque le CARE insiste énormément, j'y reviendrai avec Tronto, sur notre vulnérabilité et notre interdépendance commune. Et enfin, c'est une éthique qui refuse l'impartialité. Là, c'est une responsabilité toujours partiale. On est toujours engagé dans ce que l'on fait. Alors, donc le CARE, l'activité de CARE, c'est quoi? Alors, oui, ça aussi, j'ai oublié de vous le dire, c'est une activité. Le CARE, c'est avant tout une activité ou une pratique et pas du tout une théorie. Le CARE, c'est quelque chose qui s'effectue d'être fait. D'où le fait que, d'ailleurs, on y reviendra, mais on est dans une éthique de la vertu, c'est-à-dire que ce qui compte pour le CARE, ça n'est pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est comment faire en sorte que les gens fassent le bien et évitent de faire le mal. Donc, je cite Gilligan, « Le souci de maintenir la relation lorsque les désirs et les intérêts divergent, la prise en compte des particularités de la personne et des situations, l'engagement à répondre aux besoins concrets, le rôle accordé aux sentiments et aux émotions dans la compréhension des situations, caractérisent, entre autres, cette façon de définir les problèmes moraux et d'y répondre. Les femmes perçoivent le dilemme moral comme un problème de responsabilité et de préoccupation du bien-être, du care, de l'autre, et non comme une question de droit et de règles. Cette conception relie le développement de leur raisonnement moral au changement qui modifie leur compréhension de la responsabilité et des rapports entre la personne. De façon analogue, une morale synonyme de justice associe le développement à une logique d'égalité et de réciprocité. Ainsi, une éthique du bien-être, ethic of care, de l'autre, repose sur une logique psychologique des relations humaines, ce qui contraste avec la logique formelle d'équité sur laquelle est fondée la conception de la justice. Vous avez d'un côté égalité, de l'autre attachement. D'ailleurs, Gilligan fera le parallèle. Qu'est-ce qui est, quel est le mal qui correspond à l'égalité? C'est l'oppression. Quel est le mal qui correspond à l'attachement? C'est l'abandon. L'abandon. Et donc, pour finir sur Gilligan, alors que l'éthique de la justice est fondée sur le principe de l'égalité, chacun doit être traité de la même manière, l'éthique du CARE repose sur le précepte de la non-violence, il ne doit être fait de tort à personne. Grosso modo, là où l'éthique de la justice va chercher à appliquer une règle et chercher à être le plus impartial possible vis-à-vis de cette règle, l'éthique du CARE va chercher, selon une forme, je crois que c'est de Logier ou même de Gilligan, à minimiser le mal qui peut être fait. Ce qui veut dire, par exemple, sur la question de la punition, ça, c'est intéressant. On va beaucoup moins punir dans une éthique du CARE que dans une éthique de la justice. Dans une éthique de la justice, c'est rétributif, c'est mécanique.
Est-ce que ça s'inscrit directement dans le mouvement de l'utilitarisme anglais ?
Ça peut. J'ai pas encore abordé de front cette question, mais...
Est-ce que minimiser le mal qui peut être fait, ça me semble...
Enfin, oui, mais c'est... Ça n'a pas de relativité sociale, hein, c'est absolument qu'il faut le faire. C'est une fin qui est une fin en soi, minimiser le mal. Parce que dans l'utilitarisme, c'est une fin quand même dérivée de... Voilà. Dans lequel, non, c'est en soi. Hein. Justement, on va le voir, parce qu'on peut faire... Nous, on va s'intéresser surtout au CARE politique, qui n'est pas du tout utilitariste, pour le coup, mais on peut faire un CARE qui n'est pas du tout politique. Et qui, là, du coup, pose comme, une norme absolue, la minimisation du mal. Alors, ce qui est très intéressant, bon, le livre s'appelle Une voie différente, dans le CARE, c'est que ça introduit un changement de regard et un déplacement de l'attention en matière morale qui est fondamental, non seulement en ce qui concerne le féminisme, mais pas que. Il faut savoir que la question du CARE est une question qui est maintenant au cœur des interrogations morales américaines, la recherche américaine, débat en fait essentiellement autour de ça, autour du CARE, enfin justement, dans un débat un peu pragmatisme CARE, et un changement de regard et d'attention qui reste néanmoins problématique chez Gilligan. Mais bon, encore une fois, ça c'est une des pistes pour un, vis-à-vis des techniques de soi, ce changement de regard. Ce que je veux dire par là, c'est que et de fait, hein, je veux dire, lire le livre de Gilligan, ça agit un peu comme une révélation. Moi, je l'ai lu quand je l'ai, non, mais quand je l'ai lu, on se dit, effectivement, on a l'impression d'avoir le regard dessillé. On se dit, voilà, des choses que, qui étaient sous mes yeux depuis, depuis des années, et j'ai enfin un peu les mots pour dire ce que je voyais et ce que j'avais tendance à ignorer. Je l'ai relu pendant cet été pour, bah, pour les besoins de la cause, une amie l'a lu avec moi, elle a dit, en plus, c'était qu'une amie, elle a dit, c'est fascinant. C'est, alors, même si, c'est surtout fascinant, je vous avouerai, pas tant au niveau des entretiens, parce que là, je suis assez perplexe, parce que je trouve que Amy et Jack, par exemple, ils disent à peu près la même chose. De façon, certes, stylistiquement différente, mais bon, moi, j'ai du mal à comprendre une morale qui ne s'intéresse pas au résultat, comme c'est le cas chez Colbert, parce qu'on vole ou qu'on ne vole pas, c'est pareil. Ce qui est intéressant, c'est... Ah oui, chez Colbert, on peut être au stade 5 et ne pas voler le médicament, et au stade 4, et voler le médicament. Ce qui est intéressant, c'est la formalisation du raisonnement pour Colbert. C'est pas l'action qui est faite. Et de fait, je trouve qu'ils ont des discours assez proches. Non, ce qui est intéressant, c'est le texte que Gilligan en tire. Alors, donc, je reviens à ce que je disais, je reviendrai là-dessus. Le care n'est pas une nouvelle morale. Ça, c'est... Gilligan insiste là-dessus. Le care, c'est s'intéresser à ce qui importe, c'est donner une importance à ce qu'il y en a vraiment, et c'est quelque chose qui a été trop longtemps ignoré, minoré, invisibilisé. Comme le dit Logier et Pappelmann dans l'introduction, le care est une ressource morale ignorée qui permettrait de renouveler en profondeur la pensée morale et sociale. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient d'apparaître. C'est quelque chose qu'on avait tendance à disqualifier jusqu'à maintenant. Donc, construire une société du care, ça implique un changement de perspective. Le changement de perspective théorique induit normalement nécessairement, c'est ce que je disais sur la révélation de Gilligan, induit normalement nécessairement un changement de pratique, ou un changement de regard sur ses propres comportements et sur ses propres pratiques. Il y a donc bien un raisonnement spécifique du care. Il ne valide pas ses réponses en référence à des principes, mais donne sens aux détails concrets, spécifiques, et les rend intelligibles dans les contextes de vie des personnes. Il compose, à travers une trame narrative des éléments de la situation, une description dynamique des traits saillants, moralement pertinents pour l'appréhension et la résolution d'un dilemme de morale. Alors, par exemple, dans la lignée, ou tout du moins, dans la, c'est pas vraiment forcément des pensées du care, mais c'est des gens que, en tout cas, les gens du care lisent beaucoup, Iris Murdoch, Stanley Cavell, par exemple, va s'intéresser au cinéma. Il y a un livre de Stanley Cavell qui s'appelle « Le cinéma nous rend-il meilleur ?» Et il montre qu'en fait, le cinéma s'intéresse à la comédie de remariage des années 40-50 hollywoodienne, et il montre en fait comment toute cette comédie de remariage, avec on se sépare, on vit chacun de notre côté, puis on se remet ensemble, finalement est une sorte d'atelier, on va dire, en acte pour les femmes de l'époque, pour reprendre prise sur leur vie, pour, parce que entre le mariage et le remariage, il y a une différence, c'est que justement... on est passé d'un statut hiérarchique dans le couple à un statut où, là, on se parle beaucoup plus d'égal à égal et il y a plus de prise en compte des désirs de l'autre. Ça va être sur les objets aussi. C'est vrai, ça, c'était très intéressant. C'est que, finalement, ce que le cinéma va nous montrer, donc en ne montrant pas le reste, ça nous oblige à faire attention à des détails auxquels on ne faisait pas attention d'habitude. Et du coup, à repenser nous-mêmes l'inscription de notre quotidien dans ces détails. Iris Murdoch, elle va plutôt insister du côté de la littérature, elle va dire la meilleure école morale, la meilleure école éthique, c'est pas les cas théoriques qu'on peut lire dans les livres de morale, c'est la littérature, c'est l'interrogation précise des situations sur laquelle la littérature met des mots et sur laquelle elle peut nous donner plus de prise. D'accord ? Donc, il s'agit de déplacer notre attention. L'expérience des femmes, l'expérience morale des femmes, nous révèle une dimension oubliée de notre moralité. Alors, ça, on en est à la conception de Gilligan. Disons que j'ai essayé de synthétiser tout ce que je vous disais sur le changement de regard. Ça, c'est quelque chose qui est conservé dans les pensées du care actuel. Hein. Maintenant, il y a des choses qui sont plus critiquées chez Gilligan. Ce qu'on pourrait appeler les apories du care chez Gilligan. Alors, un des gros morceaux, c'est déjà le rapport entre care et justice, qui n'est pas toujours clairement défini chez Gilligan. Alors, est-ce que c'est le Caire contre la justice? Est-ce que le Caire est un complément de la justice, qui est très problématique finalement, on va le voir, et où est-ce que le Caire est une nouvelle justice? Gilligan penche vraisemblablement pour une complémentarité de l'éthique du Caire et de la justice. Une chose est sûre, hein, les deux choses ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Hein, il ne s'agit pas de choisir un camp et de supprimer. Et d'ailleurs, c'est ce que le Caire ne fait jamais, c'est plutôt les théoriciens de l'éthique de la justice, de l'autonomie, etc., qui disent « mais votre affaire, c'est secondaire ». Colbert dira à Gilligan « c'est très bien, tu as raison, hein, c'est pas faux ce que tu dis, mais ça reste finalement une morale de la sphère privée. C'est pas ce qui nous intéresse, nous, dans le développement moral. » Alors Gilligan, c'est intéressant dans la fin d'une voie différente, justement, il y a un balancement, où elle explique bien que les hommes gagnent finalement à mettre plus de care dans leur moralité, et c'est bien parce que les femmes se sont inscrites dans une éthique de la justice qu'elles ont pu acquérir des droits, des revendications, et du coup développer une pensée du care un peu plus développée. Peut-être un petit passage, mais j'espère que je ne prends pas trop de temps. Si. Puisque toutes les relations peuvent être caractérisées à la fois en termes d'égalité et en termes d'attachement et de connexion, toutes les relations, publiques et privées, peuvent être considérées de deux manières, et l'on peut en parler en deux séries de termes. En adoptant l'une ou l'autre des voies ou des points de vue moraux, les personnes peuvent souligner les problèmes associés à différentes sortes de vulnérabilité, à l'oppression ou à l'abandon, et centrer l'attention sur différents types de préoccupations. Chez Gilligan, on a plutôt une complémentarité. Mais le problème de Gilligan, c'est qu'elle reste encore dans un cadre qui est aporétique, parce que elle tranche pas la question véritablement de la morale féminine. Ce n'est pas une morale essentialiste. Hein. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on est plus porté vers le care. C'est bien quelque chose qui est construit. Il y a quand même une tension entre morale des femmes et morale des femmes et morale universaliste. Et du coup, cette insistance reconduit les catégories de la discrimination, en fait. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est Tronto qui fait une très bonne critique, une très forte critique de l'argument de la moralité des femmes, même considérée comme supérieure, puisque dans ce cas-là, ça ne peut jamais être qu'un supplément d'âme qui vient se rajouter et qui, du coup, vient renforcer les catégories qui font qu'il y a une morale des femmes, privée, publique, autonomie, attachement, etc. Et on voit bien chez Gilligan, d'ailleurs, il y a un courant du care, pas celui qui me passionne le plus, mais qu'on appelle le care maternaliste, hein, parce que Tronto appelle le risque du maternalisme d'une part, du localisme d'autre part, qui prend comme modèle de la relation de care la relation parentale, et plus particulièrement la relation maternelle. Hein, en disant, ben voilà, il y a une origine quasi biologique de cette moralité féminine, portée vers le souci, vers l'attention, vers le bien-être, qui est due au fait que ben, les femmes sont des mères et qu'elles sont du coup portées à s'occuper des enfants. Ça va chez Noddings même à des choses qui sont carrément antiprocéduralistes. C'est-à-dire, justement, le care, c'est ce qui se fait spontanément, par sentiment, intuitivement. Alors que ça, c'est très critiquable, puisqu'il y a des techniques du care, justement, même chez les parents. Et donc, de dire, voilà, la seule chose à quoi sert la justice, c'est perdre du temps, finalement, à s'encombrer de procédures et de paperasse. Et du coup, on ne résout pas les problèmes des personnes quand elles en ont besoin. Hein. Donc, on est quand même dans un modèle, là, dans le care maternaliste, qui est très tourné vers la question du sentiment, donc du care comme disposition, hein, et dans le cadre du relation mère-enfant, qui est une relation dyadique. Dyadique et constitutivement déséquilibrée. C'est-à-dire qu'il y a un caregiver, comme on dit en éthique du care, un donneur de care, qui est la mère, et un pur receveur de care, qui est l'enfant. Bien, ça c'est un premier, j'y reviendrai avec, parce que c'est précisément ce à quoi s'attaque Tronto, qui est très intéressant. L'autre biais par lequel on peut attaquer Gilligan, c'est tout simplement un biais méthodologique. L'étude réalisée, l'étude qu'elle fait, que fait Colbert aussi, hein, c'est le même sujet à peu près, les études qu'elle fait sont réalisées sur des populations très restreintes, de personnes extrêmement privilégiées, hein, c'est dans des collèges privés américains très haut d'accès. Et l'ironie de l'histoire, d'ailleurs, c'est que l'étude sur laquelle elles se font pas mal pour Et ça, sera invalidé par Kolberg lui-même, parce que méthodologiquement, elle n'était pas assez rigoureuse. Et du coup, en fait, d'autres études ont montré que, d'une part, les deux genres partageaient des analyses de type care et de type justice, c'est-à-dire qu'on trouvait des analyses en termes de care chez les hommes aussi, sans problème, et des analyses en termes de justice chez les femmes, et que d'autre part, la plupart des analyses, c'est pour ça que je disais ma perplexité dans les entretiens, la plupart des analyses conjoignent les deux, à la fois en termes de care et de justice. L'autre point, et qui semble plus intéressant, qui fait démarrer trop tôt de sa réflexion, c'est que, en fait, on s'aperçoit, si on fait des études sur les minorités économiquement discriminées, on s'aperçoit que ces minorités ont très souvent tendance à employer des termes qu'on qualifierait de termes de care. Donc que la communauté, finalement, que ceux qui ont tendance à s'exprimer et à penser dans une étude du care, c'est pas tant les femmes, de manière générale, que ceux qui sont discriminés, que ceux qui, en fait, font les travaux de care. Les gens qui balayent dans le métro ici à Paris, la nuit, hein, quand on ne voit pas, c'est du care. Au sens strict, on va revenir sur la définition de Tronto, c'est du care et c'est invisibilisé. Alors, donc Gilligan, comme le dit Tronto, n'a pas bouleversé la logique fondamentalement exclusive de la théorie de Kolberg. Et ce que reproche Tronto à Gilligan, c'est finalement de faire une analyse en termes plus féminins que féministes, qui du coup a tendance à faire verser potentiellement, en tout cas on peut tirer le care vers le sentimentalisme, le localisme, ce qui entraîne des apories strictes. Ce dont il faut prendre conscience avec Tronto, c'est que le care n'est pas exclusivement féminin. Et que si on a pu croire que c'était une morale féminine, ça tient plutôt à la place discriminée des femmes dans la société que à une essence féminine qui... c'est parce que les femmes sont assignées le plus souvent aux travaux de care qu'on a eu tendance à associer morale du care et morale féminine. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui caractérise les travaux de care, c'est leur invisibilité. C'est leur invisibilité, ce sont des travaux qui sont invisibilisés. Alors pourquoi, dit Tronto, parce que le fait de les invisibiliser, c'est un bon moyen, et c'est encore une fois, là, on peut repenser à ces histoires de regard, le fait de les invisibiliser, c'est un bon moyen pour que les puissants puissent continuer à être puissants sans mauvaise conscience. Hein, combien de personnes il faut pour faire un Xavier Bertrand? Je prends cet exemple-là, mais ça marchera aussi avec Martine Aubry. Ben, il en faut, j'avais fait le calcul une fois, il en faut bien une dizaine. Il y a son chauffeur, sa secrétaire, l'huissier qui va s'occuper d'amener ses dépêches, etc. Sa femme, celle qui est sa femme, celle qui s'occupe des enfants, etc. Et on en arrive quand même pour une personne qui occupe un espace public visible et qui a un travail que tout le monde considère comme valorisé, valorisé au tel point qu'on estime qu'il faut l'aider pour qu'il ait tout son temps à se consacrer, à ce travail, et ben, il y a une foule de personnes qui sont invisibles. Et le fait de se dire, mais non, c'est pas vraiment du travail, mais non, c'est pas si important que ça, ça permet de continuer, sans problème de mauvaise conscience, à faire ce qu'on doit faire. Hein, dire, vous m'amènerez mes chemises au pressing, je suis désolé, j'ai une réunion. Pour caricaturer la chemise. Alors, ce que fait Tronto va revisiter la définition du care. Elle va, justement, dans un double mouvement, elle va la déféminiser, même si après elle intégrera ça très bien avec une perspective féministe, et en même temps la politiser. Alors, définition du care de Fischer et Tronto, c'est au niveau le plus général. Nous suggérons que le care soit considéré comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend notre corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier dans en un réseau complexe, en soutien à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, premièrement, le care ne se limite pas aux interactions humaines. Il y a une dimension d'entretien dans le care. Vous voyez, si on passe au souci, on perd cette dimension-là. L'agriculteur, moi je m'étais posé la question, est-ce que l'agriculteur fait un métier de care? Si on part du principe, il est plus censé être là que pour produire de la nourriture et nourrir les autres. Ça, c'est clairement pas une activité de care, mais quand on dit qu'il doit s'occuper de la campagne, faire en sorte qu'elle soit entretenue, c'est du care. Deuxièmement, et ça contre le care sentimentaliste, dyadique, etc., le soin n'est jamais une relation purement duel ou même inter-individuel, une relation sociale. Justement, ça vient au troisième point, l'activité du soin est dans une large mesure définie culturellement et présente des variations selon les cultures, ce qui va avoir des incidences sur la question du besoin. Le besoin, ce n'est pas simplement le besoin vital et naturel. Une société va devoir définir ce qu'elle entend par ses besoins. Et surtout, c'est la tragédie du Caire, dira Tronto, mais comme les besoins, enfin les ressources sont limitées et les besoins infinis, bien surtout, ça va choisir des, priorités entre les différents. Et ça encore, ça demande justement un rapport à soi et aux autres. Et enfin, le soin est actif. Le soin est une pratique, c'est un travail. Il y a une dimension de disposition, mais pas que. Parce que si on tire du côté de la disposition, on tire du côté du sentiment, et on ne s'aperçoit pas, d'ailleurs, entre autres, que le travail de care est organisé de façon complètement sociale, c'est-à-dire que l'infirmière qui vous soigne, elle a peut-être très envie de vous soigner et que vous soignez bien, au mieux dans certains cas, mais elle n'est pas obligée. Et en ce sens-là, tantôt, il peut y avoir du mauvais care, et il n'y a pas besoin d'y croire pour pratiquer le care. C'est pas très bon pour la personne qui. C'est pas épanouissant pour la personne qui le pratique, mais on peut être devant un moniteur qui compte les pulsations cardiaques, hein, c'est l'exemple qu'elle prend, comme on est devant un moniteur qui s'occupe d'une chaîne de production, hein, par exemple. Donc, ce qui veut dire que à cet égard, hein, le care n'est pas simplement une préoccupation intellectuelle ou un trait de caractère, mais le souci de l'existence, engageant l'activité d'être humain dans les processus de la vie quotidienne. Le care est à la fois une pratique et une disposition. Mais Tronto insiste bien sur la dimension de pratique et de travail. Alors là-dedans, il y a quatre phases, hein, qui reprennent ces quatre moments, qui est ce que Tronto appelle le care, le bon care, c'est-à-dire le care intégré, dans lequel toutes les phases du processus sont interconnectées. Premièrement, et là elle reprend la définition, hein, de caring, des différentes formes du care, premier de ces moments, caring of, se soucier de. Ça, c'est le moment de l'attention, la reconnaissance du besoin. Je prends conscience qu'il y a de la famine en Afrique et je me sens concerné. Ça ne veut pas dire que je vais agir. Ça veut dire que j'y prête simplement attention. Deuxième moment, c'est celui de la responsabilité, qui est celui de take care of, de taking care of, c'est-à-dire prendre en charge. C'est-à-dire, ça veut dire que dans ce moment-là, quand on prend soin de quelqu'un, on assume une certaine responsabilité, mais attention, ce n'est pas une responsabilité qui est purement virtuelle ou théorique. C'est une responsabilité qui implique de penser la réponse aux besoins. Et cette réponse doit être adaptée. On peut reprocher à quelqu'un comme un manque de responsabilité de mal avoir agi d'un point de vue technique. Hein ? Troisième moment, celui de la compétence. Vous voyez qu'il est relié, les quatre moments sont reliés, c'est-à-dire le caregiving, le prendre soin. Là, c'est quand le besoin et le care se rencontrent.
Caregiving.
Et enfin, dernier moment, et ça, il est très important chez Tronto, le moment de la réception du soin, recevoir le soin, c'est le care receiving, qui tire très fortement chez Tronto vers la capacité de réponse. C'est-à-dire que bien recevoir le soin, c'est savoir dire et s'affirmer en disant « le soin que je reçois est adapté, il répond à mes besoins », ça veut dire s'interroger soi-même sur ses besoins, hein, qui ne sont pas simplement l'apanage de ceux qui pratiquent. Parce que c'est le danger du care. Qui est d'un côté des care receivers, qui n'auraient pas voix au chapitre, à des receveurs de care, et de l'autre des care givers, qui seraient dans une forme de paternalisme, là, cette fois-ci, qui est un danger du care, hein, plus maternaliste.
Et qu'est-ce qu'elle dit sur la morale du care receivers ?
Elle dit que c'est une activité aussi, recevoir le soin. Et en fait, ce qui est très important, là, j'allais y venir, c'est que, en fait, nous sommes toujours en même temps des receveurs et des donneurs de care. Peut-être pas toujours au même degré, au même moment, mais il est fondamental que nous nous comprenions comme care receivers et givers en même temps. Premièrement, parce que notre condition, c'est celle de care receivers. On ne serait pas ce que nous sommes. Même, alors, il y a des extrêmes de la vie sont flagrants là-dessus. L'enfant, l'extrême vieillesse, montrent qu'on ne peut pas se passer de care, mais même tout au long de notre vie, nous recevons du care qui nous permettra d'être ce que nous sommes. Et nous sommes toujours tour à tour giver et receiver, tout ça pour justement sortir de cette question de l'autonomie. D'un côté, il y a ceux qui sont autonomes, indépendants, qui n'ont besoin de personne, et de l'autre, C'est pas du tout une vision caritative, et c'est pour ça que ça embraye très vite sur la question démocratique chez Toronto, c'est qu'elle insiste très fortement sur l'interdépendance qui nous caractérise tous, c'est-à-dire la conscience de notre propre « nous sommes tous vulnérables, donc nous sommes tous interdépendants ». Et donc le fait d'ignorer ça, en fait, c'est ben, en général, c'est parce qu'on ne se rend pas compte de tout le care qu'on reçoit, parce qu'on n'en a pas une grosse demande et qu'on est relativement indépendant et autonome, et c'est une ignorance de ça qui permet de continuer à perpétuer cette illusion de l'autonomie et de l'indépendance. Hein. Donc,
ça fait aussi penser aux dons et contre-dons.
Oui, sauf que il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre du. Non, parce que c'est dans le même moment qu'il s'agit de le penser. C'est, on est toujours en même temps receveur et donneur. Certes, à des degrés différents, mais il n'y a pas un moment du don et un moment de la réception. C'est vraiment organiquement lié, ensemble. Nous sommes donneurs parce que receveurs et réciproquement. C'est pour ça que la capacité de réponse est importante. Parce que là, ce que je vais pouvoir répondre en disant la réponse à mon besoin a été adaptée ou non, ça va avoir des effets sur moi, les réponses que je vais apporter à ceux qui ont des besoins en face de moi. Vous voyez ? Hein ? Donc c'est toujours, les deux sont tout. C'est ce qui fait le care intégré. On ne peut pas dire. Et justement, alors là, c'est trop tôt, il ne faut pas qu'il y ait de relations hiérarchiques. Il faut faire en sorte que tout le monde soit précisément en situation à la fois de donner et de recevoir. Hein, il ne faut surtout pas qu'il y ait des gens qui, entre autres par exemple, ne soient qu'en position de donner le care, qui deviennent ou des esclaves ou qui sont dans le sentiment du coup. Hein. Et à l'inverse, il faut qu'il n'y ait jamais personne qui soit en pure position de réception du care. Même si après, il y a des degrés, hein, bien sûr, là-dedans. Mais ce n'est pas une logique. On n'est pas dans une logique d'échange. C'est pour ça que l'histoire de don contre don m'embêtait un petit peu, parce qu'on est tout de suite dans une logique de l'échange. Et de l'échange distinctif, structurant, différé dans le temps, etc. Là, c'est vraiment de la morale. C'est en deçà de. Ah, peut-être qu'effectivement, il y a une base anthropologique, d'après ce que vous dites, mais c'est pas. Qui correspond à ce que vous dites, mais c'est pas l'enjeu ici. Hein, le care concerne, donc le care concerne tout le monde et la société dans son ensemble. Et d'ailleurs, on peut ressentir de l'intérêt même pour autre chose que ses proches. Hein? Le care est donc conçu comme une pratique, comme un travail, comme une activité, et non plus comme un sentiment. Et c'est un travail nécessaire, sans quoi nos sociétés disparaissent, que donc la société dans son ensemble doit mettre en œuvre. Le care n'est donc pas tant une morale de genre qu'une morale de classe. Non seulement Toronto rejette la pertinence stratégique de l'invocation d'une morale des femmes, qui ne fait que reconduire les catégories de la discrimination, comme je vous le disais, hein, privé public, autonomie, dépendance, attachement, séparation, etc., mais elle refuse d'assigner au care une origine exclusivement féminine, même si elle accentue l'inscription du care dans une politique féministe. Hein, ça, l'un n'empêche pas l'autre. Le care va bien au-delà des femmes, même si elles sont en première ligne. Et on les contente dans le subalterne. Le care est bien plutôt une question de discrimination, de domination. Et là, il faut vraiment interroger la question de la division du travail dans nos sociétés. Et qui exerce quels travaux sont visibles, quels travaux sont valorisés, quels travaux sont reconnus. On est maintenant passé en termes. Si on est vraiment dans la question, c'est très intéressant dans le care, parce que vous voyez que tout de suite, on embraye vers une perspective économique, mais qui est pensée différemment et de façon secondaire. Et une des perspectives qui est très intéressante, c'est maintenant, c'est les flux de care à l'échelle internationale. On assèche les pourvoyeurs de care des pays du tiers-monde pour venir donner du care chez nous, hein, alors même que ça va priver des gens de care sur place. Hein. Et c'est pour ça que je crois que c'est Patricia Bellermann, qui est psychologue du travail, justement, fait un article très drôle, très intéressant là-dessus, dans notre étude, qui s'appelle pas exactement, mais c'est l'idée, de façon assez amusante, combien de femmes faut-il pour faire une féministe ? finalement, le caricature de la féministe, qui restitue toutes ces questions d'aporie, d'autonomie, de l'indépendance, etc. Alors, donc, je ne reviens pas sur la définition. On peut donc, hein, si le care, c'est ce qui prend soin des autres et du monde, On peut élargir le queer bien au-delà des femmes et voir que le queer est une question en soi qu'on peut contourner aux femmes. Donc nous sommes tous donneurs et receveurs de queer, là je ne reviens pas là-dessus. Invisibilisation, ça je l'ai fait, je ne voulais pas prendre trop de temps. Donc, du coup, nous sommes tous pourvoyeurs et receveurs de queer. Nous aurons tous besoin à un moment ou à un autre, je vais essayer de finir rapidement. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes tous égaux, même si ce n'est pas vraiment la façon dont Kerr le formulerait, aimerait le formuler. Mais en tout cas, ce que vise à construire le Kerr, en tout cas dans l'esprit de Toronto, c'est une société réellement démocratique. Une société, pour reprendre justement la distinction réelle, formelle, hein, les schémas, une société qui soit effectivement démocratique, et pas simplement formellement démocratique. Ce qui veut dire que, par exemple, la prise en compte, le Kerr n'est pas égalitariste, au sens où il serait un nivellement, mais il est peut-être plus égalitariste que ne l'est la théorie de la justice, puisqu'il démarre d'une prise en compte véritable des inégalités. Hein, des inégalités et une prise en compte sensible, particulière, située. Donc, ce à quoi le Kerr va aboutir, c'est finalement une revisitation, une revitalisation de notre conception de la justice. Ce qui est encore une fois un changement de regard. Hein, et du coup, le Kerr, d'un côté, plus d'éthique du Kerr, ça veut dire un changement de pratique politique, et inversement, un changement de pratique politique implique une diffusion plus importante du Kerr. Hein, un des points les plus intéressants de Toronto, la question organique de l'éthique du Kerr, c'est le changement de paradigme moral et ce qu'il va induire dans nos pratiques à nos politiques. Comment nous allons agir dans une sorte de co-génération. Et voyez bien qu'on est vraiment à une échelle politique. C'est vraiment une société du Kerr, une démocratie du Kerr qu'il s'agit de construire, et pas une société du soin. Hein, c'est-à-dire que si le Kerr est une activité, alors les citoyens qu'on veut sont des citoyens actifs. Et pas simplement des citoyens qui seraient bien pris en compte par la société. Et là, vous voyez que de toute façon, si on limite le Kerr au soin, on rentre très vite et très facilement dans les accusations de menucherie. Alors que, et encore une fois, j'insiste sur le quatrième aspect, la capacité de réponse, hein, qui est une activité dans la réception. Hein. Et donc, du coup, le problème pour Toronto, c'est le suivant. Définir une manière de penser la morale qui élargisse des formes de sympathie au-delà de notre groupe d'appartenance reste probablement aujourd'hui la question morale fondamentale. Hein, faire en sorte que nous soyons concernés par qui nous ne connaissons pas, c'est-à-dire que nous puissions étendre le Kerr, finalement qui n'a pas de limite, hein, si on désentimentalise à tous, c'est ça vraiment l'enjeu de nos pratiques. Être moralement bon exige entre autres de chacun qu'il s'efforce de répondre aux demandes de soins auxquelles il est confronté dans sa vie. Pour qu'une société soit jugée comme moralement digne d'admiration, elle doit entre autres apporter une sollicitude adéquate à ses membres et à son territoire. Le but est donc d'obtenir chez chacun un vrai sens de la responsabilité. Et là, je sais que tu n'aimes pas le mot, mais on pourrait parler de concernement. Ou d'intelligence particulière du sensible, les deux en même temps. D'intérêt aussi, hein, et de soucis. Ça... L'accès à la politique permet de dépasser d'ailleurs les deux dangers du Kerr, le localisme, c'est-à-dire je vais m'occuper, le Kerr c'est ce qui me concerne directement, donc je vais m'occuper de mes proches, et le paternalisme, c'est-à-dire on va faire ça en top bottom, et j'ai défini tes propres besoins avant même que tu les aies exprimés. C'est donc la prise de conscience de notre commune condition qu'il s'agit de refléter politiquement, qui passe par une prise en compte des besoins de chacun, et passer de l'égalité formelle à une prise en compte réelle de l'inégalité. Alors, quand je disais que je vais recycler ça pour se coller, je vais surtout le recycler pour... Enfin, pas le recycler, mais en tout cas m'appuyer là-dessus pour faire tout un travail sur l'enseignement est-il un métier de care. Certainement pas si on tire le care du côté du sentimentalisme, même si on peut être un prophète maternant. Mais par contre, si on tire du côté démocratique, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Et d'autant que ça passe, c'est pas antagoniste de la justice, je vais revenir tout de suite. Une des tâches majeures dans ce contexte-là, hein, des urgences, on va dire, politiques, c'est de requalifier et valoriser les tâches de care. en commençant par les désinvisibiliser. Ça, c'est une urgence pour tous les penseurs, surtout les penseuses du Caire. Encore une fois, il s'agit de changer le regard. Alors, est-ce que c'est un vœu pieux? En tout cas, c'est un cercle vertueux. Comme le dit Tronto, la forme démocratique du Caire exige des citoyens qu'ils se soucient de la démocratie. Et réciproquement, la démocratie qui se soucie du Caire se soucie du fait que ses citoyens soient concernés. Pour qu'elle se crée et se maintienne, à l'inverse, une éthique du Caire doit donc reposer sur un engagement politique à valoriser le Caire et à remodeler les institutions de sorte qu'elles reflètent les transformations de cette valeur. Donc on a une circularité, mais un peu du même ordre que celle qu'on avait avec les Lumières. Et ça m'intéressait ce que tu disais sur le changement, c'est par la pensée que finalement les choses changeront. Les Lumières, ça se définissait à la fois comme une époque, l'époque qu'on vivait, mais aussi comme une tâche. C'est-à-dire un projet à mener et à conduire, et les deux se co-généraient. Le Caire, c'est une tâche morale quotidienne, mais c'est aussi un climat. Et plus le climat sera présent, plus le Caire se diffusera et réciproquement. Alors, une dernière remarque sur Caire et justice. Le Caire n'est pas un complément de la justice, parce que sinon on fait une morale des femmes. Puis, du coup, on dit bah, c'est très bien, mais pour la cuisine. Ce n'est pas un adversaire, la morale de justice, à quelques exceptions près, aucun penseur du Caire ne l'a jamais dit, mais ce n'est pas non plus voyez, deux choses qui s'imbriqueraient, qui se compléteraient l'une l'autre, c'est vraiment une autre conception de la justice. Et ça, c'est à mon avis un des problèmes conceptuels que pose le Caire. Ce n'est pas évident ce lien. Mais il y a déjà une première chose à noter, c'est que le Caire est à la fois universel et particulier. Ça, la dichotomie Caire-justice est une fausse dichotomie, dira Tronto. Pourquoi universel? Tous les hommes ont besoin de soins. Et donc tous, nous sommes potentiellement en situation d'être les donneurs de soins. Mais ces soins sont à chaque fois des soins particuliers qui apportent une réponse spécifique. Donc on a bien les deux dimensions en même temps. Et du coup, il y a un refus des oppositions abstraites, singuliers, universelles. Alors je vais conclure, parce que j'ai duré beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu, mais ça c'est du genre. Premièrement, rapport care et technique de soi. Certes, je vous disais, il n'y a pas de thématisation explicite des techniques de soi dans le care. La question semble plutôt absente. Mais, à mon avis, et puis pour justement avoir lu le bouquin de Worms, qui ne m'a pas entièrement convaincu, et qui thématise ça différemment, le care est intrinsèquement et constitutivement une technique de soi. C'est pour ça que c'est pas... Alors, il n'y a pas d'exercice comme chez les stoïciens, mais le simple fait de lire du care, de s'y intéresser, c'est une technique de l'intérêt, par la simple lecture et par le changement de regard qui le... Je vais peut-être un peu loin, mais j'essayais justement de rapprocher ça aux techniques de soi. Le care est une activité qui existe déjà, et lorsqu'elle est cultivée, donc réflexive, elle devient une technique de soi. Dans l'activité de care, je sors nécessairement transformé, non seulement dans ce que je vais faire, dans ce que je pense, etc., mais aussi dans le rapport que j'ai à moi-même. Ne pas se voir comme une espèce de monade autonome, isolée, toute puissante, ça implique qu'on va se considérer autrement, et qu'on va agir autrement, et qu'on va agir vis-à-vis des autres autrement. Alors, avec ce dernier point, donc, on a, une dimension spirituelle. Alors, ce que je dis, c'est encore une fois pas thématisé comme ça, mais spirituelle au sens où pratiquer le care, étudier le care, ça a nécessairement des conséquences sur soi, une incidence sur soi. C'est pas une théorie. On peut connaître très bien la théorie morale kantienne, ne pas être kantien et être le pire des salauds dans sa vie quotidienne. C'est beaucoup plus difficile en ce qui concerne le care. On ne s'intéresse pas au care si on ne veut pas se faire transformer par le care. Donc en ça, il y a une dimension, on pourrait dire spirituelle, de transformation de soi dans le care. Bien. Qui est, alors, je n'ai pas trop insisté là-dessus, mais qui est d'ailleurs clairement du côté des morales contextualistes et ce qu'on appelle des éthiques de la vertu. C'est-à-dire que le principe, la question, c'est pas au nom de quel principe est-ce jugé, est-ce que mon jugement est bon, mais quelle est la vérité finalement de la morale, mais plutôt comment faire en sorte que les gens agissent moralement. C'est ça le problème du Caire. Comment faire. Et donc là, on retombe encore une fois sur cette question de, pour les Grecs, la philosophie, ça devait me changer moi-même, ça devait me transformer moi-même. Bien. Deuxième point, la réforme de l'entendement. Je disais, certes, le Caire se situe à un point de vue assez intellectuel, en tout cas les théories du Caire, mais modifier sa façon de penser, c'est modifier sa façon d'agir. Et là, je vais le faire très vite, ça va impliquer plusieurs pistes, mais une fondamentale, c'est que ce à quoi le Caire, ce que nous impose le Caire, tout simplement, c'est de repenser le concept d'autonomie.
Le concept
d'autonomie.
D'autonomie.
De ne pas de l'abandonner, mais Tronto, il va carrément à fond, elle dit, il faut repenser nos conceptions de la nature humaine. Car le Caire exige une connaissance non idéalisée de soi et des autres. Vous avez, alors j'ai pas trop insisté là-dessus, mais c'est en ce moment le principal chantier, en tout cas intéressant, de la philosophie morale. Cette question de l'autonomie, et comment, vous êtes très bon livre là-dessus, comment penser l'autonomie, dirigé par une philosophe française du Caire, et de plus penser une autonomie qui soit toute puissante sur soi-même, une maîtrise de soi, et qui soit plutôt... Plutôt que de penser le contraire de l'autonomie comme étant l'hétéronomie ou la contrainte, plutôt penser l'aliénation comme contrainte de l'autonomie, qui est quelque chose qui est beaucoup plus inscrit dans le Caire, bien sûr. Enfin, parce que je repensais à ce que Christian disait la dernière fois, on voit que dans le Caire, il y a un lien constitutif entre les techniques de soi et les techniques de nous. D'ailleurs, cette frontière entre le soi et le nous, elle est absolument pas étanche dans le cas du Caire. Aux deux extrêmes, si on place le curseur aux deux extrêmes, on a bien quelque chose comme du soi, quelque chose comme du nous, mais la plupart du temps, on est dans. C'est ce que dit, je crois, c'est Iris Murdoch, ou. Non, pas Nodings, mais Cora Diamond, qui dit penser de Caire, c'est penser gris, hein. C'est penser dans le gris, en permanence, hein, ni dans le noir, ni dans le blanc, c'est toujours dans le gris qu'on est, et dans l'interrogation du gris. Ce qui veut dire que. Si on a une autonomie non fermée sur elle-même, nécessairement, la frontière entre le soi et le nous, c'est pas une frontière, c'est une membrane qui est poreuse. Et du coup, le Caire, aussi bien en même temps, la diffusion du Caire, c'est une technique du nous, d'une certaine façon. Bien. Et tout ça, bien sûr, qui induit une autre vision de la justice, qui vise à nous rendre plus juste. Pour conclure, je conclurai avec Tronto, pourquoi le Caire n'est-il pas une catégorie centrale de l'analyse de la société ? Sans une réflexion systématique sur le Caire, l'opportunité de parvenir à une perspective critique sur notre culture est perdue.
Merci. Ce serait bien, je vous dis juste un mot, il faut qu'on puisse utiliser certains de tes documents de référence.
Oui,
ça.
Je suis désolé,
c'est pas poser des questions. Ah bah non, bien sûr.
Non, non, c'est. Il n'y a pas de rappel.
Il faut pas qu'on parte à
18h. On est
17h30. Désolé, j'étais un peu plus long, mais pourtant j'ai essayé de condenser. Hein, déjà.
Je suis d'accord avec toi. Le rattachement des. De la question du Caire passe beaucoup par, enfin pour moi, mais passe beaucoup par les techniques du nous et aussi les techniques de la relation. Donc la question de la relation. Hein.
Ouais.
C'est pour ça que tu as lu le bouquin de Worms.
Oui, oui, oui.
Worms, quand il parle du soin, il s'en empare pour dire la relation du soin, c'est la relation la plus importante. Il lui donne un statut ontologique qui est important parce que pour lui, dans cette relation, il réintroduit toute la tradition du. Il remet à jour toute la tradition du réalisme relationnel.
Oui.
Qui dit que la relation, elle est première, c'est dans la relation que les termes de la relation vont se constituer. Hein, tout comme quand on dit que c'est la relation médicale qui donne un statut au docteur et au patient. Il n'y a pas d'abord un docteur et un patient, et puis ensuite une relation qui arriverait par derrière. De la même manière,
dans la relation, dans la relation parentale, dans la relation maternelle. C'est la relation maternelle qui fait qu'une femme va devenir une mère et que l'enfant va lui faire face d'une certaine manière, mais c'est la relation qui va porter les termes, non pas les termes qui arrivent avant la relation. Ça, c'est un petit peu le coup que joue Worms pour réintroduire toute la dimension du care avec le réalisme relationnel et avec derrière en perspective tout Simondon, même s'il ne le cite pas. Donc il y a quand même. L'autre point, parce que nous on parle de soins, alors industrialiste, quand je dis nous, c'est surtout Bernard. Donc la critique, je pense que ce sera l'objet d'ailleurs de la prochaine, le 2 octobre, soins et relations, de ce dont on va parler. Ce qu'on pourrait reprocher au care, je ne serais pas tellement d'accord avec ta conclusion. Je serais d'accord avec ta conclusion, mais tu as fait parler, je crois, le care tel que peut-être lui-même ne le parlerait pas. Le problème du care, c'est qu'il y a trop de care.
Il y a trop de
care. C'est-à-dire que ce qui passe à la trappe, c'est la dimension éminemment pharmacologique. C'est à la fois soin, poison et remède. Ce que tu as évoqué en conclusion sur l'aspect gris, je pense que les tenants du care, eux-mêmes, spontanément, n'ont pas ce... Je pense que c'est plus... toi-même ou une relation industrialiste ou ton travail qui a injecté ça en introduction plus qu'un discours qui vient du care, je crois. Parce que le risque du care par rapport au débat aujourd'hui, notamment parce que ça a été repris par le Parti Socialiste, enfin, Oury avait évoqué la question du care, donc filigrane derrière, c'est quoi? C'est ce que l'enjeu du discours socialiste pour la prochaine élection, ça va être le care, voilà, le centre de la place. Le travers de ce discours-là, c'est un discours qui est à la fois féministe, un peu droit de l'homme, ça a été évoqué, et puis qui met à la trappe toute la dimension pharmacologique des techniques, enfin, tout ce qu'on évoque aujourd'hui, des techniques de soins, etc. Donc voilà une remarque, c'est plutôt une proposition pour rappeler comment Ars Industrialis, de ce que j'ai cru entendre, se distingue, valorise d'abord cette démarche du care, bien évidemment, je pense que tout le monde aura compris que quand on a lu Lugan, mais quand même décentré, ce que tu as évoqué, c'est important, ça. Et en même temps, il ne faut pas verser dans le côté peut-être plus Ségolène Royal du care, c'est-à-dire féministe, un peu droit de l'homme, mais désubstantivé de tout ce qu'on porte, nous, à travers le maintien du terme de soin.
Et c'est pour ça que, justement, on sort des Ligan et on le sort a fortiori de Tronto. Parce que là, je n'ai pas abordé cet aspect, mais Tronto, elle dit qu'il y a du mauvais care. Et pourquoi il y a du mauvais care? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de le faire. Mais parce que c'est surtout une question. Et là, on touche aux questions. C'est vrai qu'il n'y en a pas jusqu'à la pharmacologie, bien sûr. Mais s'il y a du mauvais care, parce qu'entre autres, il y a une mauvaise organisation du care. Et que du coup, le care, quand il est mal organisé, quand il est mal pensé, il devient toxique. Il devient toxique pour ceux qui le reçoivent. Et pour ceux qui l'exercent. Parce que l'infirmière qui se retrouve complètement dépossédée de son travail.
Parce que c'est ce que vous vivez dans l'éducation, de plus en plus.
Oui.
T'as plus de moyens, t'as plus de. Donc la question que tu as posée, est-ce que je suis en position de care? Ben, il me semble que l'organisation est tout est fait aujourd'hui pour que je ne sois plus du tout en position de.
Il y a même deux degrés dans le care, il faudrait que je fasse ça à peu près, mais il y a une question purement éthique qui est dispositionnelle, la mère abusive. Ça, c'est du mauvais care. Et après, il y a une question organisationnelle et politique, c'est-à-dire qu'il y a des situations qui font qu'on ne peut pas être en situation d'intégrer le care. Parce que le bon care, c'est le care intégré, c'est celui qui intègre les quatre moments. Quand les moments sont dissociés, là, on est souvent dans la toxicité.
On est... Je voudrais poser une question sur l'espace du care. D'activité de care, les soignants dans les hôpitaux, les gens qui s'occupent des autres de manière générale, et puis en même temps on parle des rapports des parents avec des enfants. Si on prend un déjeuner, on a déjeuné ensemble tout à l'heure, il n'y avait pas une place, la place pour la justice, c'était un moment très particulier. Et supposons que ton boudin était deux fois plus gros que le mien, tu n'as plus le même plat. Alors c'est pas juste. Bon, c'était un cas qui était. En revanche, il y l'impression que l'espace du care est quelque chose de dilué, de fragmenté à l'infini. C'est un esprit qui peut présider aux relations entre les hommes à tout moment. Et c'est très étonnant que ça se soit opposé à la justice, qui n'est précisément pas de cet ordre-là.
Pas chez Tronto. Pas chez Tronto. Après, il faut articuler ça à la question du féminisme. Ce qui va être un peu remis en question, c'est le côté abstrait, formel de la justice. Je veux dire, les droits de l'homme, c'est les droits de mal, hétérosexuel, non, bourgeois, occidental, qui ne tiennent pas compte des particularités. Donc c'est ça qui est dans la ligne de mire, si tu veux. Et qui, du coup, peut en tirer certaines penseuses du Caire vers le maternalisme ou le sentimentalisme, c'est-à-dire avec un côté un peu rousseauiste, hein, je veux dire. Le sentiment, la bonté naturelle est tout de suite plus adéquate, plus appropriée que...
Mais tu peux attaquer l'universel à partir d'une particularité rattachée à l'universel, tu ne veux pas attaquer l'universel au nom de la somme des particularités.
Ah non, mais après, tout à fait. Après, si tu veux, chez Tronto, universel et particulier, care et justice ne sont pas du tout antagonistes, mais pas complémentaire, c'est-à-dire qu'il s'agit de rendre notre justice plus caring, en fait. Et éventuellement, réciproquement, notre care plus juste aussi. On pourrait dire que c'est deux perspectives vers une même chose. C'est assez compliqué, moi j'ai mal à trancher la question. Hein. Moi, vraiment, ça mérite de le faire, de bien distinguer les deux. Je pense que c'est aporétique, enfin, c'est pas le but du jeu de continuer à rester sur. Donc, ce que dit Tronto à la fin, c'est que finalement, le care nous donne une autre vision de la justice.
Je veux dire, on réfléchit par rapport au. Tu parles de métier du care, comme les infirmières, moi je suis éducateur, on peut faire de l'autre. Est-ce que le care, ça peut être un métier? Est-ce que quand on a. Moi, je fais mon métier d'éducateur, mais l'infirmière fait infirmière, mais aussi parce que. On me dit que je dois faire ça. Ça ne vient pas forcément que de moi. Je suis salarié.
Oui. Non seulement ça peut être un métier, mais ça doit même l'être. Pourquoi ? Pour pas que justement on soit dans le sentimentalisme, c'est-à-dire c'est les enfants qui vont s'occuper de leurs grands-parents, de leurs parents quand ils sont âgés. C'est, et du coup, ça permet aussi de casser le danger du localisme. D'en faire un métier. Ça ne doit pas être un métier qui est réservé à certains et dont d'autres qui seraient privilégiés n'auraient pas à se préoccuper. Et ça doit être repensé dans une organisation qui fasse que pareillement, il n'y ait pas que des gens qui soient assignés en permanence à fournir du care.
Donc c'est plus dans l'organisation aujourd'hui du travail.
Mais ça doit être un travail.
Que c'est compliqué, quoi.
Oui, parce que sinon, ça ferait un care injuste. Là, justement, la catégorie de la justice vient informer le care. Il faut que ce soit un travail, il faut que ce soit un travail repensé sous une autre forme.
Une tâche, quoi.
Donc, et dans le caritatif, on n'a pas forcément affaire à...
Pas du tout, non. Elle en parle à un moment.
C'est la question de la professionnalisation.
Donc, oui,
c'est surtout quand la professionnalisation.
Non, parce que justement, le problème... Le problème de ce dont on parlait, c'est que justement on n'est pas dans un care intégré là. Et la bureaucratisation, c'est typiquement une non-intégration du care. C'est-à-dire que ceux qui prêtent attention ne sont pas ceux qui prennent la responsabilité d'eux et ne sont pas les mêmes, qui ont forcément, donc pas forcément, et c'est pas forcément encore les mêmes pour les compétences.
L'institutionnalisation du care, pour changer le concept.
Ah oui, un passage au plan politique, ça c'est sûr.
Dans quelle mesure on peut organiser le care? Qu'est-ce qu'il y aurait comme exemple concret l'organisation du care?
Au niveau politique, quoi.
Je trouve qu'un hôpital et un lycée, c'est d'assez bons exemples déjà.
Là, c'est des exemples de l'abandon. Parce qu'aujourd'hui, il me semble qu'aujourd'hui, il y a un business du care.
Oui, ça c'est clair.
British Petroleum, qui dit Beyond Petroleum, toutes ces industries nocives ne communiquent que sur une de leurs activités qui est parfois marginale et qui prend la figure du care. Les énergies renouvelables pour EDF, sachant que 99 c'est du nucléaire, British Petroleum, les autres c'est l'industrie de la propreté alors que c'est Areva les déchets nucléaires. Donc il y a toute une professionnalisation, une industrie du care communique autour de lui avec ce fonds du care, mais c'est une professionnalisation du care, peut-être qu'il pointait vers ce que tu voulais dire. Alors moi, je fais un métier de care.
Et puis, oui, et puis, plus loin que ça, enfin, sur un autre. Bon, moi, c'est mon métier, mais il y a des fois, j'ai pas envie d'y aller, quoi.
Oui,
mais j'y vais. Et, bon, est-ce que...
Mais là, ça dit en fait que, justement, tu n'es considéré que comme un caregiver et pas comme un care-receive. Si on intégrait le fait que toi aussi tu as besoin de care, on pourrait beaucoup plus facilement concevoir qu'il y ait des jours où tu n'as pas envie d'y aller.
Parce qu'il y a une logique évidemment professionnelle, dissociée, etc., pour jeune le vocabulaire qu'on utilise la plupart du temps. Il va travailler dans un milieu qui n'est pas du tout associé, au sens qu'il ne va pas recevoir ce qu'il donne.
Et donc c'est au milieu professionnel de recréer l'association, par exemple. Tu vois ? Et de pouvoir...
Oui, oui, voilà.
Non, mais à ce titre-là, par exemple, c'est sûr que on la souligne d'un point de vue comptable, mais si on se place dans une optique de care, et de care au sens de Toronto, les coupes drastiques dans les services publics, ça joue la variable d'ajustement, c'est directement, c'est le remplacement. Le fait que finalement on fasse que les conditions de remplacement soient de plus en plus difficiles, non pas pour ceux qui voient le remplaçant, mais pour ceux qui remplacent et ceux qui sont remplacés, ça montre bien qu'on n'est pas dans un care intégré. Parce que c'est des purs care receivers, et ça c'est associé au fantasme d'autonomie. Tu travailles, donc tu es indépendant, tu sais te prendre en main, tu n'as pas besoin qu'on s'occupe de toi, jusqu'au jour où les gens pètent les plombs.
Est-ce qu'il y a une relation établie entre les notions de care et la power-mance?
Oui, je n'ai pas. J'ai pas eu le temps de trouver un article là-dessus. Oui, parce que, encore une fois, c'est en discutant avec vous que je vois vraiment l'importance de cette quatrième dimension du care qui est la capacité de réponse, ce qu'ils appellent en anglais la responsiveness, qui va dans les deux sens, aussi bien dans celui qui donne le care à un moment donné que dans celui qui le reçoit. Ils sont tous les deux dans la responsiveness. C'est le même terme qu'on va employer pour les deux. Et là, oui, c'est l'empowerment sous cet angle de la responsiveness. Mais il y a du mauvais care. Et du mauvais care pour celui qui l'exerce, et enfin pour celui qui dispense et pour celui qui reçoit aussi.
Et moi, enfin, je trouve que votre exposé est remarquable parce qu'il permet de poser toutes sortes de questions. Donc je dis ça parce que la critique n'a pas son exposé, mais. Alors, mais je ne sais pas, soit mon incapacité à comprendre positivement ce que tu viens de faire, mais j'ai l'impression qu'il est facile de repérer, comme on dit, le mauvais care, ou alors c'est pas un métier, mais ça a rapport quand même avec le métier, c'est pas une disposition, mais quand même ça a rapport, et d'un autre côté, on voit des, comme vous avez parlé, du business, du care, etc., c'est-à-dire des formes déviées du care, mais je me dis, ce développement, cette inflation quoi, de cette notion, je dis, est-ce que c'est pas ça, enfin disons, est-ce que le care ne se réduit pas à sa caricature, est-ce qu'il y a quelque chose de positif, parce que je pense qu'on a du mal à définir cette positivité du care quoi.
Ben, alors à titre personnel, un des grands intérêts que je vois à l'éthique du care, c'est que c'est à la fois une éthique de la vertu, donc des dispositions, mais aussi une éthique du résultat. C'est-à-dire que, moi, c'est l'exemple que je prenais l'autre fois, justement, je faisais une distinction morale-éthique avec les élèves. Je disais, alors je comprenais plus ou moins l'éthique de la justice, l'éthique du care, sans leur dire. Mais en leur disant que voilà, la morale, c'est des règles qui s'appliquaient à chacun, de façon universelle, et puis c'était comme ça tranche. Et je prenais l'exemple de quand est-ce qu'on. Enfin, la date de remise des devoirs. Si on est dans une éthique de la justice, c'est à rendre pour le temps, et puis après, c'est zéro.
C'est la forêt de la justice elle-même.
Dans ta classe, tu n'as que des délinquants.
Voilà. Et une éthique d'un père de perspective du care, qu'est-ce qui compte? Parce que c'est quand même ça. Moi. C'est une éthique qui s'intéresse à what matters, comme ils disent. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui compte? Et dans ce cadre-là, j'expliquais aux élèves, ben voilà, ce qui compte, c'est quand même le résultat. C'est que votre copie, elle soit bonne, c'est-à-dire que vous ayez progressé, vous ayez appris des choses, etc. Donc si ça met 2 jours de plus, ça met 2 jours. Enfin, honnêtement, je préfère que ça mette 2 jours de plus Et en même temps, c'est pour ça que les justices ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. En même temps, il y a quand même besoin, tu sais, il y a une motivation à le fait qu'il y ait des deadlines, qu'il faut y acheter le travail. Comme je leur disais, hein, me soucier de vous, ça peut être d'être indulgent par moment, mais ça peut être vous botter le cul à d'autres. Plus que, et si je vois qu'il y en a qui ont besoin de plus se faire rappeler à l'heure, plus qu'on soit un peu taqué avec eux, enfin un peu.
Je serai juste avec ceux qui ne seront pas de bons guérisseurs.
Voilà. Mais peut-être que justement, je crois que c'est Wittgenstein, j'ai pas retrouvé la référence, mais qui explique très bien que juste, c'est pas seulement l'adjectif de justice, c'est aussi l'adjectif de justesse. Et que l'extension de la justesse est beaucoup plus vaste que celle de la justice. Parce qu'on va parler de la justesse d'une note, alors d'une note de musique, mais d'une note aussi qu'on met, la justesse d'un jugement, même y compris un jugement judiciaire, hein, la justesse d'un mot, etc. Et c'est donc, on pourrait dire que c'est une éthique de la justesse. Et donc la justesse n'exclut pas la justesse.
Et par rapport à la notion grécienne d'équité. Surcroît justice, mais qui. L'équité, moi, je suppose quand même de mettre en avant la justice, puis de prendre en compte des cas particuliers aussi.
C'est ce qu'on disait quand je disais une autre conception de la justice. C'est-à-dire que l'équité, c'est finalement. Alors, peut-être une interprétation un peu la serre, mais si on prend l'exemple d'Aristote, c'est les portes de la cité doivent être fermées à la tombée de la nuit. Puis si l'armée, c'est l'exemple qui prend l'équité, si l'armée est en manœuvre à l'extérieur, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'elle arrive après la tombée de la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse dehors? Non, bien sûr que par équité, hein, c'est-à-dire qu'en prenant l'esprit de la loi et plus à l'être, on va les laisser rentrer. Le but du jeu de fermer une porte, c'est la sécurité, on se laisse l'armée dehors. Et l'équité, elle est toujours finalement particularisée. Hein. Même les morales universalistes, universalistes sont contextualisés. L'universel ou une certaine pétition de principe. Mais parce que c'est une certaine conception d'universalité qui est en jeu derrière les morales de l'autonomie et de la justice. À la limite, on pourrait dire que c'est une certaine justice aussi, qui a une forme historique qui est celle qui est la nôtre depuis le 18e, on va dire à peu près, et qui doit être visité. Une justice abstraite, hein, la critique a déjà été faite à Ranker, hein, une justice abstraite qui pose des problèmes justement au niveau de la prise en compte du quotidien. C'est vrai qu'il y a un changement de vocabulaire, hein, clairement, il y a tout un tas de catégories qu'on ne peut plus utiliser, parce qu'elles sont refusées. La notion de principe, pas la notion de droit, par exemple, la notion de droit, on peut la faire fonctionner. La revisiter, la revoir, mais elle fonctionne toujours. La notion de principe, par exemple, oui, elle devient beaucoup problématique.